Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Un taux de chômage deux fois plus important en moyenne qu'en métropole, des biens de consommation courante beaucoup plus chers, une pénurie de logements, des infrastructures de transport pas assez développées, une couverture numérique bien en deçà de la moyenne nationale. Ce ne sont pas les exemples qui manquent pour illustrer les écarts de développement entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain. François Hollande avait fait de leur réduction un des objectifs de son quinquennat. Objectif qui devrait être atteint lorsque le projet de loi relatif à l'égalité réelle outre-mer prendra sa pleine mesure dans les années qui viennent. Le processus en tout cas est lancé. Le texte est en discussion depuis ce mardi à l'Assemblée nationale. Alors, les mesures sont d'autant plus nombreuses qu'une consultation publique avait été ouverte pour inciter les populations d'outre-mer à enrichir la loi de leurs propositions. Il y a beaucoup question, par exemple, de convergence économique, mais aussi sociale. Cela dit, les problèmes de ces territoires se résument-ils seulement à ces écarts de développement? De quelle égalité les ultramarins ont-ils besoin? Eh bien, c'est la question que nous allons aborder ce soir avec trois invités, à commencer par vous, Jean-Marc Mormec. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Vous êtes en poste depuis 6 mois. Par ailleurs, membre du CREFOM, le Conseil représentatif des Français de l'outre-mer. Et vous avez un passé de sportif de haut niveau puisque vous avez été par deux fois champion du monde de boxe. Pour discuter avec vous, David Auerbach-Chiffrin. Bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire national du CEGOM, le collectif des États généraux de l'outre-mer. C'est un collectif qui a été fondé en 2009 après les manifestations aux Antilles, manifestation au départ contre la vie chère qui avait soulevé un certain nombre d'autres problèmes s'agissant de ces territoires ultramarins. Et puis troisième invité, Fabrice Richy, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du département des Outre-mer à l'AFD, l'Agence française du développement, car oui, l'AFD intervient aussi dans l'économie ultramarine. C'est même un des principaux financeurs de cette économie avec
Absolument.
La Caisse des dépôts et consignations et avec la Banque publique d'investissement.
Absolument.
Alors, nous allons évidemment beaucoup parler de questions économiques en évoquant cette affaire des inégalités. Mais pour commencer, je voudrais vous lire un court extrait d'un billet qui a été posté il y a quelques jours par quelqu'un que vous connaissez peut-être, Jean-Marc Mormec, puisque c'est lui aussi un sportif de haut niveau. Lui, il est nageur, il fait partie de l'équipe de France de natation, il est guadeloupéen, il s'appelle Ganesh Pédurand. Et sur son blog, il écrivait ceci. Le mardi 13 septembre 2016, un jeune lycéen d'à peine 15 ans se fait braquer. Deux jeunes hommes tentent de lui dérober son téléphone. Le lycéen refuse et reçoit 7 coups de couteau à la gorge et au thorax. Il meurt très rapidement. Une attaque sanglante d'une violence inouïe et pourtant rien. Pas une ligne, pas un reportage. C'est un fait divers qui s'est déroulé dans les dom-toms. Et ce que dénonçait ce nageur guadeloupéen, c'est le fait que les médias en métropole n'aient absolument pas évoqué cette question. Est-ce que quand on parle des inégalités dont souffriraient ou dont souffrent les ultramarins aujourd'hui, Jean-Marc Mormec, vous diriez qu'il y a déjà une inégalité de traitement médiatique? On ne s'intéresse pas suffisamment à ce qui se passe dans ces territoires?
Ça, c'est sûr. Moi, comme vous l'avez dit, ça fait 6 mois que je suis à la délégation interministérielle et on se rend compte, toutes les actions qu'on mène, c'est vraiment dur de faire venir les médias, de parler des Outre-mer. Maintenant, si on parle de la banlieue, alors il faudrait associer les Outre-mer à quelque chose de médiatique. Par exemple, si on parle de la banlieue et on va parler des Outre-mer, là, peut-être les journalistes, ils viendront. Mais si c'est juste pour parler d'Outre-mer, des problèmes que l'Outre-mer rencontre, eh bien, vous avez personne, mis à part, en fin de compte, RFO ou des choses comme ça. Mais
peut-être que votre passé d'ancien boxeur permet justement d'attirer certains journalistes et vous permet ensuite d'aborder les sujets qui sont les vôtres aujourd'hui.
Oui, mais normalement, je veux dire, c'est un sujet, on devrait s'y intéresser comme on s'intéresse à d'autres sujets.
Vous partagez ce constat, David Auerbach-Chiffrin?
Tout à fait. À l'heure actuelle, si vous voulez, nous réalisons chaque année un audit des politiques publiques conduites par l'État en direction des Français d'outre-mer. Bon. La question de la situation des jeunes est une des toutes premières. Il y a d'abord la cherté de la vie, ça reste, comme en 2009, je dirais même aujourd'hui la précarité.
Oui, mais là je parle de la médiatisation de ce qui se passe en outre-mer. Hein. N'allez pas trop vite en besogne par rapport à la situation des jeunes et à la cherté de la vie.
Excusez-moi, je m'oublie, je devais répondre d'abord à vos questions.
Oui.
Sur la question de la médiatisation, tout à fait, mais le problème est plus général, d'ailleurs. C'est un problème de visibilité générale, les Outre-mer, sur tous les écrans. Quand vous avez la météo qui est présentée tous les soirs, qu'on nous dit, eh bien, sur toute la France, vous aurez le soleil, et qu'on oublie systématiquement, ou presque, des fois, il y a des initiatives, mais elles sont assez rares. Mais c'est une humiliation. Ce sont les territoires français, c'est la France. C'est une humiliation pour les gens là-bas, c'est une humiliation pour les Français d'outre-mer qui vivent dans l'Hexagone, qui sont au nombre d'un million. Quand systématiquement, vous avez au début de chaque mois l'annonce des chiffres du chômage en disant France métropolitaine sans les chiffres d'hommes-tomes. Comme si, enfin d'hommes plus précisément, sans les chiffres d'hommes, comme si les d'hommes, ce n'était pas la France. Mais c'est une autre humiliation. Ça veut dire que, quel que soit le degré de chômage qu'il puisse y avoir là-bas, ça n'intéresse pas les décideurs publics français, ça n'intéresse pas le public français. Je crois que ça l'intéresse, mais si, à chaque fois, dans les médias, dans les statistiques publiques, on oublie, on occulte plus précisément les Outre-mer, ce n'est pas par hasard.
Est-ce que c'est parce que la situation dans les Outre-mer est à ce point différente de la métropole qu'il y a un traitement différencié, selon vous, Fabrice Richy, par exemple sur la question très importante, évidemment, qu'évoquait David Auerbach-Chiffrin, qui est celle du chômage. Le chômage de longue durée, par exemple, c'est en moyenne 4 fois plus important dans les territoires ultramarins qu'en territoire métropolitain, où c'est déjà important. Hein.
Absolument, et on peut faire une litanie de chiffres comme ça sur plein de domaines, hein, sur le secteur hospitalier, les services publics, les transports, ce que vous disiez en début en introduction. Mais je dirais encore plus, peut-être, on ne parle des Outre-mer qu'en cas de crise en plus. Dans les médias. Je reviens à la question des médias. Je veux dire, le sujet qui intéresse les médias sur les Outre-mer, c'est les crises. Crise en Guadeloupe, grève, crise à Mayotte, etc. Alors qu'il y a plein de dynamisme en Outre-mer. Il y a des sportifs, là, on a M. Mordek, mais il y en a plein d'autres. Et on a bien vu qu'il y en avait beaucoup d'autres et des plus brillants. Il y a les Outre-mer sont l'endroit où il y a le plus de création d'entreprises par milliers d'habitants. Les Outre-mer sont des endroits de création, de dynamisme sur les nouvelles technologies, sur l'énergie. Il y a beaucoup de projets en transition énergétique qui sont passionnants.
Donc il y a aussi un projet de loi inutile finalement,
j'ai commencé en disant il y a encore des retards, il y a des inégalités, il y a des gaps à rattraper. Mais en même temps, moi je milite pour qu'on essaye aussi d'inverser une image et d'avoir une image dynamique des Outre-mer. Parce que c'est pas en renvoyant systématiquement une image, je dirais un peu appauvrie, qu'on résume à une suite de problèmes, qu'on peut créer une adhésion, qu'on peut rendre de la fierté aux ultramarins. Et Dieu sait s'ils ont des raisons d'être fiers de leur histoire, de leur vécu, et de leurs origines et de leurs projets.
Alors sans doute n'avez-vous pas totalement tort quand vous dites qu'on parle surtout en métropole de l'outre-mer en cas de crise, puisque c'est justement l'extrait, l'archive que je voulais vous faire entendre pour voir si depuis 2009, puisqu'en 2009 il s'est quand même passé beaucoup de choses, en particulier aux Antilles françaises, la Guadeloupe d'abord, la Martinique ensuite, grève générale dans ces deux départements, grève au départ contre la vie chère.
Toute la Guadeloupe mobilisée contre la vie chère. À Pointe-à-Pitre, plus de 3000 manifestants ont répondu à l'appel d'une cinquantaine d'organisations syndicales, politiques et culturelles. Pendant ce temps, plus de 300 défilés à Grand-Bourg de Marie-Galante. Tous les secteurs du public et du privé ont été affectés par ce mouvement. Dans les écoles, les enseignants étaient en grève et de nombreux parents ont préféré garder leurs enfants à la maison. Notons également une forte mobilisation chez les douaniers, les employés de la Générale des Eaux et de EDF. Conséquence, des coupures d'électricité ont eu lieu et les lignes téléphoniques ont été perturbées. Fermées depuis lundi, les stations-service refusent toujours toute nouvelle implantation sans négociation préalable.
Voilà, donc là on est en janvier 2009 avec un reportage diffusé sur RFO, puis une des chansons de la grève. Il s'est quand même passé 7 ans depuis ce mouvement de protestation extrêmement important aux Antilles, Jean-Marc Mormec. Est-ce qu'aujourd'hui les questions de cherté de la vie, et notamment sur les denrées alimentaires, c'est encore un problème important, un facteur d'inégalité entre ces territoires et la métropole? Ou bien est-ce que ça s'est un petit peu résorbé?
Je pense qu'au début, on en a beaucoup parlé. Donc forcément, je pense qu'ils ont fait des efforts. Mais c'est encore inégal. Il y a encore, la vie, elle est encore chère. Et pour l'instant, il y a pas encore de grève. Donc j'espère qu'il y en aura le moins, parce que c'est pas bon aussi pour le pays. Mais ça reste inégal. On le voit bien.
Il y a une étude de l'INSEE d'ailleurs qui a été publiée en avril dernier sur le surcoût qui existait entre métropole et territoire d'outre-mer simplement pour se nourrir, puisque c'est notamment sur les denrées alimentaires que les différences sont importantes. Surcoût de 38% en Martinique, de 34% en Guyane, de 33% en Guadeloupe, de 28% à La Réunion. C'est des inégalités qui sont à ce point difficiles à résorber, David Auerbach-Schifrin, qu'elles sont encore aussi importantes?
Elles sont effectivement extrêmement difficiles à résorber pour toute une série de raisons, et je dirais même qu'elles ne s'arrangent pas. En 2009, l'État, après un certain nombre d'engagements, qu'il a réitéré à différentes reprises depuis, or, nous, en termes de notation, la note qui est donnée par les personnes qui répondent à notre audit annuel, la dernière note notée en matière de cherté de la vie aux politiques conduites par l'État, c'est 3,5 sur 20. Donc véritablement, s'il y a une grande insatisfaction sur ce point-là, avec même 34% des personnes interrogées qui donnent la note 0 sur 20. Il y a des problèmes multiples. D'abord, la production locale n'est pas encouragée, pas suffisamment. Il faut une politique d'investissement, il faut une politique de soutien financier aux producteurs locaux pour arriver, alors nous souhaitons viser la souveraineté alimentaire, évidemment c'est un objectif ambitieux à ce stade aujourd'hui, mais enfin il faut bien à un moment donné se poser la question véritablement de ce qu'on produit. Si on importe tout, il faut évidemment payer le coût du fret.
Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'agriculture, hein. Il y a de la production de canne à sucre, il y a la production de bananes, mais on ne se nourrit pas uniquement de canne à sucre et de bananes.
Voilà, sans compter effectivement qu'il y a le problème de la répartition des terres. Si vous posez la question des cultures vivrières, qui ne sont pas vivrières, qui sont destinées à l'exportation, vous posez la question de la répartition des terres. Donc la question de la réforme foncière, qui est une question lancinante. Aujourd'hui, les terres sont réparties entre quelques mains. Bien évidemment, tôt ou tard, il faudra se poser la question de savoir si on ne redonne pas aux gens sur place des terres pour qu'ils puissent faire des cultures vivrières. Il y a un autre problème aussi majeur qui se pose, c'est que pour faire des cultures vivrières, il faudra décontaminer. Parce que les terres ont été polluées, elles le sont toujours aujourd'hui, avec la complicité de l'État, notamment par le chlordécone. Pas seulement, mais principalement, et c'est le plus emblématique. Et il faut savoir que le chlordécone rend inutilisables les terres pour de la culture vivrière. Parce que c'est un poison. C'est un poison qui affecte les générations, c'est un poison qui passe aux générations futures, et notamment aujourd'hui, c'est un poison qui, ça a été démontré, affecte les capacités intellectuelles de nos jeunes.
Je vous voyais acquiescer, Jean-Marc Mormec.
Oui, non, mais c'est vrai que je le rejoins tout à fait là-dessus. En fin de compte, non seulement il y a une vie chère, mais en plus, c'est vrai que le sol est quand même assez abîmé par rapport à ce qu'il vient de dire. Donc après, les gens, forcément, à un moment donné, à force qu'ils se sentent un peu acculés en se disant, ben, en fin de compte, c'est vrai qu'on est un territoire département français, mais en fin de compte, l'intérêt, les gens, on s'occupe pas d'eux comme il faudrait. Il y a un taux de chômage beaucoup plus élevé, un taux d'illettrisme beaucoup plus élevé. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc c'est pour ça que je pense que ces lois qui sont faites, c'est bien fait. En plus, cette délégation, ça a été fait sur Sarkozy, qui est Patrick Carême, qui a été le premier délégué interministériel, justement pour tous ces Français qui venaient en métropole pour pouvoir les aider, parce qu'on se rend compte, le fait qu'ils rentrent en métropole, tous les problèmes qu'ils rencontrent, toutes les discriminations sur les cautions bancaires, sur la sécurité sociale aussi pour les gens des Outre-Atlantique, enfin tous ces problèmes qu'ils rencontrent, on se dit c'est pas normal.
Alors vous évoquiez, David Auerbach-Schifrin, la question du modèle finalement de développement agricole. Fabrice Richier, donc vous occupez des Outre-mer à l'AFD, l'Agence française de développement, avec un budget qui est quand même assez conséquent chaque année pour le développement de ces territoires. Vous me disiez hors antenne, c'est 1,5 milliard d'euros annuels, hein, à peu près. Est-ce que justement la question du modèle de développement agricole, ça fait partie des réflexions que vous menez à l'AFD pour essayer de résorber ces inégalités?
Ça fait évidemment partie, mais plus largement, c'est la question du modèle économique des Outre-mer sur lequel on doit s'interroger. Enfin, la France, mais aussi les ultramarins. Enfin, je veux dire, on est en limite, et on le sait bien, on est en limite du modèle de transfert, globalement. Et je pense qu'il y a un constat que beaucoup de gens partagent chez les ultramarins, comme dans les différentes institutions, que ce soit les conseils régionaux, les collectivités territoriales, enfin les mairies, et y compris les acteurs économiques, les groupes privés et les entreprises privées, d'une si vous voulez, d'une d'un plafonnement du modèle de transfert tel qu'il a été construit depuis près de 70 ans. Je rappelle
Qu'est-ce que vous appelez le modèle de transfert?
C'est-à-dire qu'une grosse partie de l'économie et des flux financiers qui vont dans les Outre-mer sont basés sur des transferts économiques entre... c'est la péréquation française. Je veux dire, on a un système de péréquation où les Outre-mer sont traités un peu moins bien que les autres, que d'autres des régions françaises. La péréquation n'est pas tout à fait la même dans les Outre-mer que dans d'autres régions françaises.
Bon, et parfois, il y a la Corse, peut-être?
Non, je parle y compris de régions, je veux dire, des régions métropolitaines sur le territoire. Si on raisonne revenu moyen par habitant, je crois qu'il y a 3 ou 4 régions françaises qui dépassent le revenu moyen par habitant de la moyenne nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, les 13 autres régions maintenant, puisqu'il y en a 13, plus les ultramarines, puisqu'il y en a encore 5 ultramarines, ça veut dire que les 17 autres régions bénéficient de la péréquation d'une manière globale. Hein? Donc, et les ultramarins bénéficient moins de la péréquation que les 10 autres régions qui, elles, ont un revenu moyen plus faible que le revenu moyen français.
Mais si les Outre-mer bénéficient moins que d'autres régions métropolitaines de ce système de péréquation, est-ce que le problème, il n'est pas avant tout que ce sont justement des modèles de développement qui sont essentiellement basés, comme vous le disiez, Fabrice Réchi, sur ces transferts, et que les ultramarins, peut-être aussi, se satisfont d'une certaine manière de ce système-là et éludent la réflexion sur une autre façon de développer ces territoires sur le plan économique.
C'était c'était l'aboutissement du raisonnement, si je puis dire. Je veux dire, on sait que le système de péréquation, en tout cas de transfert que je viens d'expliquer, atteint des limites. C'est-à-dire, toutes les finances des collectivités territoriales sont tendues. L'investissement public stagne depuis 3 ans. On l'estime à peu près 2,5 milliards, hein, l'investissement public dans les Outre-mer. Et on sait que depuis 2 ans, c'est à peu près le même. Donc on a un problème d'investissement. Et on a un problème de modèle économique, parce qu'on sait très bien aussi, et ça je crois que le diagnostic est partagé, y compris par les entreprises, les institutions ultramarines, qu'il faut trouver d'autres leviers de croissance. Et il faut absolument... Alors, les leviers de croissance, c'est effectivement la production locale. Ça, c'est clair que c'est un levier de croissance à travailler. Mais on souffre là d'un problème très particulier dans les Outre-mer, c'est que les sociétés sont sous-capitalisées. C'est-à-dire qu'il y a un manque de fonds propres important. Et donc, une faible capacité d'investir dans le futur. Parce que les fonds propres, ça sert à quoi une entreprise? Ça sert à faire de la recherche, à améliorer ses compétences, à investir dans le futur. On espère aussi qu'un marronnier dont on parle depuis 20 ans, c'est l'intégration régionale, puisse avancer un peu plus. Donc là, il faut sans doute qu'on travaille beaucoup plus en appui des groupes ultramarins pour qu'ils aient une intervention dans l'espace régional qui soit plus importante. C'est un autre levier de croissance.
Voilà, l'intégration régionale, ce sont des relations économiques avec les autres pays de la région et peut-être un lien un peu moins, un peu moins fort, en tout cas un peu moins important avec la métropole. Est-ce qu'en tout cas, la question du développement économique, Jean-Marc Mormec, et je vais vous poser exactement la même question, David Orbach-Chiffrin, est-ce que cette question du développement économique des territoires ultramarins, elle passe par justement une forme d'affranchissement de ces territoires à l'égard de la métropole et en essayant de développer un véritable tissu économique local?
Je pense que oui, je pense qu'il faut, mais après il faut, je pense qu'il faut peut-être plus de matière, parce que je pense qu'ils ont déjà essayé de travailler sur tout ce qui était. Puisqu'une fois j'avais assisté à une réunion avec Victorien Lurel et avec les territoires, avec la Martinique, avec le Guyane, pour qu'ils travaillent un peu sur la pêche, pour voir comment ils pouvaient un peu travailler entre eux, développer une autre économie, puisque apparemment ce qu'ils ont aujourd'hui là, c'est pas suffisant pour qu'on puisse que ça puisse générer de l'argent et qu'il puisse un peu se développer correctement.
David Orbach-Chiffrin.
Merci. Déjà peut-être juste à ce stade, parce qu'on a beaucoup parlé des Antilles, il y avait eu aussi des mouvements sociaux à La Réunion, avec notamment le COSPAR. Mayotte est quasiment un mouvement social ininterrompu depuis 10 ans maintenant, avec des événements assez vifs ces derniers mois. Et puis il y avait eu également des manifestations dans l'Hexagone en 2009, parce qu'il y a aussi la situation des Français d'outre-mer qui vivent dans l'Hexagone, qui n'est pas toujours sans présenter quelques inégalités majeures, notamment notamment parce que les Français d'outre-mer qui vivent dans l'Hexagone, bien souvent, vivent aussi dans des zones, dans des régions, dans des zones où l'habitat est dégradé, par exemple. C'est Manuel Valls, le Premier ministre, qui avait parlé de ghetto. Et ça concerne aussi les Français d'outre-mer, bien souvent, qui vivent dans l'Hexagone. Pour revenir, si vous le permettez, sur votre question plus précisément...
Bah, je vous le permets, je vous y invite même.
Merci. L'économie, la création d'entreprises, c'est effectivement un vecteur essentiel, surtout sur les PME. Monsieur Richet avait très, très justement souligné qu'il y avait un fort taux de création de PME, il y a aussi un fort taux de disparition de PME. Je pense que c'était bien sûr le pendant de son propos quand il parle de sous-capitalisation. Nos jeunes et moins jeunes ont envie de développer des entreprises, ont envie de développer une activité économique, encore faut-il le leur permettre. Et pour cela, il y a de nombreux obstacles à tout niveau. Par exemple, quand il s'agit, on pousse nos jeunes à faire des études. Ils en font d'ailleurs souvent de très bons niveaux. Simplement, quand ils veulent revenir au pays, s'ils le souhaitent, pour prendre des emplois, il n'y a pas de place pour eux. Il n'y a pas de place pour eux, ou en tout cas, il y en a peu, notamment parce que... ils n'ont pas toujours les bonnes relations. Les relations sont un élément extrêmement important dans les départements territoires d'outre-mer. Il faut être inséré dans des circuits de relations. Si vous ne l'êtes pas, eh bien vous n'avez pas accès aux emplois. Notamment aussi parce que certains groupes outre-mer, et ça nous avons de multiples témoignages là-dessus, de groupes économiques, choisissent de faire venir des cadres d'origine hexagonale, métropolitain, parce qu'ils ne veulent pas sélectionner, faire monter en puissance, si je puis dire, en qualification, des cadres locaux, parce qu'ils ont peur que les cadres locaux, après, ne soient plus objectifs dans leur exercice économique.
Et vous aviez sans doute raison de préciser, David Herbach-Chiffrin, s'ils le souhaitent, ces étudiants des territoires d'outre-mer qui viennent faire leurs études hors métropole, vous vous en occupez justement particulièrement de ces ultramarins, Jean-Marc Mormeac, qui vivent en métropole. Est-ce que une des actions que vous menez consiste justement à les inciter à repartir dans leur territoire d'origine pour faire bénéficier de leur expérience leurs compatriotes? Ce sont nos compatriotes, bien entendu.
Non, mais... Après, les inciter, non. Les inciter, bon, quand ils viennent la plupart du temps à la délégation, c'est que ils ont besoin de quelque chose ou de revendiquer quelque chose. La revendication, ils ont pas de, comment dire, ils ont pas de relationnel, ils ont pas de living pour chercher un stage, pour avoir un stage ou une formation pour qui permettre aussi des fois de valider leur diplôme, pour dire aussi, pour nous dire les problèmes qu'ils rencontrent. Et nous, par rapport à ça, alors nous on essaye de les aider. Donc pour les stages, donc ce que nous on a fait à la délégation, quand je suis arrivé comme je vous dis, ça fait à peine 6 mois, c'est d'écouter toutes ces délégations, toutes ces présidents d'associations, et c'est voir les problèmes qu'ils rencontrent. C'est les formations, les stages, le travail, je vous ai dit les cautions bancaires qui rencontraient.
Mais pour quelle raison est-ce que les étudiants qui viennent de l'outre-mer ont davantage de difficultés à avoir des cautions bancaires?
Parce que si vous avez une banque, pourtant c'est une succursale d'une banque française qui est à Paris, dans les Outre-mer, vous faites un chèque, donc on va pas prendre votre chèque parce que c'est comme si on vous dit un peu, c'est comme si que ça sortait de l'étranger, donc on n'a pas confiance. Ou si vous voulez avoir un appartement, faire une location, on va vous demander 6 à 8 fois de déposer la caution en séquestre. Donc ça, c'est interdit par la loi, mais voilà, ils rencontrent ces difficultés. Et donc, on ne peut pas dire que ce ne soit pas une discrimination. Donc, c'est essayer justement de pouvoir comprendre pourquoi, en fin de compte, on essaye de... Il y a ces problèmes. Et à chaque fois, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez aussi, je crois qu'il y a un problème qu'on regardait. C'est même au niveau... Ce qui change, c'est... au niveau, vous savez, quand vous êtes handicapé, vous avez une carte. Vous avez une carte d'handicapé. Même ça, encore, c'est pas la même chose. Que les gens en métropole et de l'Océanie, eh ben ils ont pas cette même carte. Donc on nous parle d'un jeune qui est arrivé, enfin quelqu'un qui est handicapé, on le voit bien handicapé, mais le fait qu'il ait sorti sa carte, en fin de compte, on le reconnaît pas puisque c'est pas la même identification, donc il a été verbalisé. Donc est-ce que c'est pas une discrimination si vous voyez quelqu'un handicapé en pensant que vous le verbalisez pour ça?
Ce dont nous parle Jean-Marc Mormeac, Fabrice Richy, c'est pas seulement des inégalités donc de développement entre les territoires, c'est aussi des inégalités de droit, même si elles sont pas forcément des inégalités qui sont inscrites dans la loi, bien entendu, mais en tout cas des inégalités d'accès aux droits pour les ultramarins.
Mais tout à fait, enfin, je veux dire, et ce n'est qu'un petit versant de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un énorme boulot à faire pour l'accès aux droits de tout citoyen français. Et c'est un des sujets qu'a abordé David.
Alors, s'agissant au moins des Antilles, c'est depuis 1946, vous le rappeliez tout à l'heure. La départementalisation, c'est 1946.
Je rappelle que dans la loi de 1946, l'égalité était déjà inscrite dans la loi de 1946.
Bon, même s'il y a Mayotte qui est un département depuis beaucoup moins longtemps, mais enfin, en tout cas.
Non, mais même département, enfin, dans la loi de 1946 de départementalisation, et bon, Aimé Césaire, qui a rejoint cette loi de 1946 et avec un certain nombre de collègues députés, je veux dire, un des éléments de la loi de 1946, c'était justement l'égalité réelle. C'est inscrit dans la loi de 1946. Donc, c'est un projet qui date de plus de 70 ans maintenant, 75 ans. Pratiquement 70 ans, donc c'est pas nouveau.
En 2009, bon, au moment des manifestations, on avait beaucoup parlé, justement, des inégalités sociales, notamment entre les grandes familles de Béquet, c'est-à-dire les descendants des colons, et puis une partie de la population, pour expliquer aussi le fait qu'il y avait un petit nombre qui, disons, confisquait les biens, là en l'occurrence de la Guadeloupe et de la Martinique. Est-ce qu'il y a structurellement des inégalités qui existent encore dans ces territoires, Fabrice Richer ?
Il y a des questions de répartition de la richesse, c'est clair. Pas de la même manière, comme vous le dites, suivant les départements. Hein, ça, je veux dire, on n'a pas du tout les mêmes situations à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Et donc là, on a aussi des sujets sur la répartition de la richesse. Sur bon, et c'est un des sujets d'ailleurs qui à mon avis, bloque la création d'un vrai projet collectif ultramarin pour chaque territoire. Parce que effectivement, il y a encore, je veux dire, on est encore souvent dans ces territoires, dans des bagarres intestines extrêmement fortes, ça peut arriver, qui empêchent la formation d'un projet collectif où chacun fait un effort, où chacun, si vous voulez, dit bon bah d'accord, moi je. Et donc c'est important qu'il y ait ce projet collectif. Et il faut absolument. Et je crois qu'on a une nouvelle classe politique qui émerge. On a des jeunes, une nouvelle élite qui émerge, qui n'est plus dans le rapport ilien. Intramuros, qui commence à travailler sur des perspectives communes et qui est capable de construire un projet collectif et territorial pour un département, pour une île, pour et ça c'est très très important, parce que je vais vous raconter une petite histoire qui est, il se trouve que j'ai travaillé dans le nord de la France à un moment donné et dans une autre région française que je citerai pas. Je veux dire, dans l'autre région française, qui était globalement une région du sud, les élus, quand ils venaient à Paris, ils discutaient beaucoup dans le train et ils n'arrivaient pas à trouver un porteur de parole quand ils allaient voir un ministre. Et donc chacun s'exprimait en désaccord devant le ministre. Les élus du nord de la France, au-delà de leur débat interne, ou de Lyon par exemple, ou d'autres villes, ils arrivent devant le ministre, ils choisissent de déléguer la parole à quelqu'un et après tout le monde s'aligne et ils règlent leur problème en interne. Et je crois que ça, cette expérience-là, moi, m'a été très utile, parce que j'ai bien vu que la réaction d'un ministère, la réaction d'un responsable politique par rapport à une parole désordonnée ou par rapport à une parole en ligne n'est pas du tout la même. Et je crois que de ce point de vue-là, si vous voulez, ça explique sans doute pourquoi des territoires comme La Réunion sont sans doute plus solides, parce qu'il y a un travail important en interne à La Réunion où ils arrivent à construire à leur manière. Mais on a un problème de projet collectif dans un certain nombre de territoires.
Et de l'importance d'avoir un poids politique. Vous évoquiez le problème de la répartition des richesses, Fabrice Réchi. David Auerbach-Chiffra, est-ce qu'il y a aussi un problème au-delà de la répartition d'utilisation des richesses aujourd'hui dans les territoires ultramarins ? Il y a quand même beaucoup d'argent qui est donné à ces territoires par la métropole. Est-ce que on sait si cet argent est toujours bien utilisé, ou bien est-ce qu'il y a, par exemple, quand on parle des territoires ultramarins, ce ne sont pas les seuls territoires évidemment qui provoquent ça, mais il est souvent question de clientélisme, par exemple, qui peut provoquer, voilà, des, non pas des détournements de fonds, mais enfin en tout cas des utilisations de fonds qui ne sont pas ce pour quoi ils avaient été alloués.
Alors, d'abord, pardonnez-moi, je comprends votre question, simplement je suis un peu gêné quand vous dites qu'il y a beaucoup d'argent qui est donné aux Outre-mer. Il y en a beaucoup qui a été pris aussi. Il faut le rappeler. Si vous avez des villes comme Bordeaux, comme La Rochelle, comme Nantes, pour ne citer que celles-là, qui sont aujourd'hui des villes superbes, c'est parce que il y a eu la traite négrière. Ces villes, ces régions autour de ces villes ont construit leur prospérité sur notre dos, si j'ose dire. Avec notre chair, avec notre sang, celle de nos ancêtres. Ensuite, sur ce qui est de la, ce qu'on appelle la continuité territoriale, c'est-à-dire la péréquation que Monsieur Richez évoquait tout à l'heure, je reprends l'exemple de la Corse. Je n'ai rien contre nos amis corses, simplement qui sont d'ailleurs très proches de nous à de nombreux égards. L'État aujourd'hui au niveau de la continuité territoriale investit plus par habitant corse que par habitant ultramarin.
Bon. Alors, donc tout est de la faute de l'État et rien n'est de la faute des collectivités ultramarines.
Il y a des responsabilités que chacun doit identifier. Simplement, l'État doit prendre les siennes, nous devons prendre les nôtres.
Alors les vôtres, c'est quoi par exemple ?
La difficulté de l'État à réellement se positionner pour rassurer à nos populations la fameuse légalité. La preuve, la meilleure preuve, c'est qu'il faut attendre aujourd'hui, encore le projet de loi n'est même pas adopté, pour qu'on dise que les Français d'outre-mer ont droit à l'égalité réelle. Excusez-moi, c'est quand même hallucinant, en un sens. Ça veut bien dire qu'il y a un problème, ça veut bien dire que si on est obligé de le rappeler, qu'actuellement ils ne l'ont pas. Donc là-dessus, ça c'est bien la responsabilité de l'État. Plus collectivement, je pourrais vous citer toute une série d'exemples. Je voudrais juste en citer deux, un sur la jeunesse et un sur la construction de l'économie qui joue sur la répartition des richesses, la répartition des flux économiques. Un, notre jeunesse. Notre jeunesse, actuellement, elle est bouffée. Je parle principalement pour la situation antillaise. La situation réunionnaise, par exemple, est un peu différente de la situation varoise aussi. Sur la situation antillaise, notre jeunesse, elle est bouffée par un espèce de modèle culturel états-unien pourri, pardonnez-moi l'expression, qui est fondée sur l'économie de la drogue, qui est fondée sur la valorisation de l'argent facile, sur la valorisation de la possession facile de femmes, de jeunes femmes, toutes plus consentantes les unes que les autres, excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, notre jeunesse est victime de ça. On a plus de taux de décès par criminalité aujourd'hui en Guadeloupe qu'à Marseille. Et quand est-ce qu'on parle de la Guadeloupe ? Il faut attendre que ça brûle, il faut attendre que ça pète tous les 6 ans pour en reparler. Ça pose un problème.
Je voudrais juste, parce que David Auerbach, je ferai entendre aussi Jean-Marc Mormeck sur cette question, même si vous y avez répondu à votre manière, mais sur la question de l'utilisation des ressources, même s'il ressort clairement que la péréquation est bien moindre et défavorable aujourd'hui au territoire ultramarin, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort à faire d'utilisation peut-être un peu meilleure de ces ressources pour permettre à ces territoires de se développer davantage et de rattraper leur retard avec la métropole ?
Alors, quels seront les efforts à faire ?
Ça, c'est la question que je pose aux spécialistes des territoires d'outre-mer. Peut-être que Fabrice Richi, vous auriez une réponse à ma question, qui semble vous étonner tous les trois.
Non, c'est une question qui me semble assez légitime.
Il faut travailler, si vous me pardonnez un instant.
On ne peut pas juste faire de l'histoire, il faut aussi faire de l'économie.
Il faut faire de l'économie, mais l'économie, ce n'est pas seulement donner tant d'euros à quelqu'un pour qu'il développe une entreprise. Mais si à un moment donné, ça peut aussi passer par là. Et on pourrait parler des difficultés de l'accès au crédit outre-mer. Mais il y a aussi tous les présupposés, il y a le terrain qu'il faut travailler.
Alors, Fabrice Richi, sur cette question.
Un peu le ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une déperdition d'énergie liée à plein d'initiatives qui sont parfois contradictoires ou qui sont pas dans le même sens. Donc je pense que ça c'est un vrai sujet de travail. Le deuxième sujet, je crois qu'il y a parfois un dialogue qui n'est pas excellent entre les autorités parisiennes, globalement, je dirais, et les ultramarins. Je veux dire, il y a souvent un dialogue de sourds, ou un dialogue en posture, et je pense que tant qu'on n'aura pas dépassé ce stade d'un dialogue où chacun est sur une posture et sur ses positions, on aura du mal à attaquer les sujets de fond, et on aura du mal à travailler positivement.
Il y a aussi... Jean-Marc Mormeck, je voudrais qu'on entende une
comparaison avec c'est vrai que les Outre-mer, comme vous dites, il y a peut-être beaucoup d'argent de verser et puis on sait pas forcément où ça passe, mais alors je vais faire la comparaison avec les banlieues. Il y a aussi beaucoup d'argent dans les banlieues. On dit qu'il y a beaucoup d'argent, mais on voit pas d'avancement dans les banlieues, et on en parle seulement quand ça explose, quand les voitures brûlent. Donc c'est pour ça que je vais faire la comparaison avec les Outre-mer, parce que tant que ça pète là-bas, qu'on a vu en 2009, tout le monde en a parlé, les médias et tout. Donc, tant que c'est calme et pourtant alors qu'ils rencontrent des problèmes, il y a des discriminations, il y a un taux d'illettrisme, il y a un taux de chômage, il y a justement, aujourd'hui, il y a des gangs, une délinquance incroyable, il y a beaucoup de braquages et autres. Limite, On le survole, ça. Et c'est pour ça que je fais la comparaison dans les banlieues, parce que c'est pareil quand vous regardez les autres. On les considère uniquement qu'on s'appelle.
David Herbach-Chiffrin.
Oui, merci. Sur les fonds, quand même, une chose, c'est vrai que de temps en temps, il y a des scandales, mais je crois pas plus qu'à Levallois-Perret, pas très loin d'ici, d'une part, et peut-être même moins, certainement, même si...
Donc il n'y a pas de raison de moins en parler que quand ça se passe à Levallois-Perret.
Ni plus, on est entièrement d'accord là-dessus. Cependant, l'argent qui est donné par l'État est contrôlé par la comptabilité publique. À cet égard-là, il n'y a pas d'indépendance, si je puis dire, de ces territoires. Il y a aussi, beaucoup plus profondément, une ambiguïté fondamentale de l'État français par rapport à ces outre-mer. Cette ambiguïté est la suivante, c'est que, globalement, on va dire, depuis 1958, la démarche de l'État français est bien développée, les outre-mer comme l'ensemble du territoire, mais, globalement aussi, l'État français se dit « Oula, mais si je développe trop, ils vont prendre leur indépendance, donc j'aurais perdu de l'argent pour rien. » Ça, c'est l'ambiguïté fondamentale qui régit la relation entre l'État français, je parle pas des Français, je parle de l'État français, c'est pas la même chose, même s'il y a des points communs, évidemment. Mais c'est ça l'ambiguïté fondamentale de la relation qui régit l'État français à ses outre-mer, et là-dessus, on a énormément de mal à en sortir, alors que la solution la plus simple, ce serait de se dire que nos départements de territoire d'outre-mer sont français. Si un jour ils veulent prendre leur indépendance, ils la prendront, ça sera leur décision souveraine. En attendant, tant qu'ils sont français, ils doivent bénéficier de l'égalité.
Donc lutter contre les inégalités, ça peut passer par davantage d'émancipation et ça pourrait être quelque chose qui fait un peu peur aux politiques. Il y a une notion qu'on n'a pas abordée, on est déjà à moins de 2 minutes de la fin de l'émission, qui est le système de surrémunération des fonctionnaires. Je suis assez étonné de ne pas en avoir entendu parler encore depuis le début de l'émission. L'État finance aussi ces territoires à travers cette surrémunération qui s'explique par un coût de la vie plus cher dans les territoires d'outre-mer, donc les fonctionnaires sont surpayés et régulièrement on évoque l'idée d'aller vers la fin progressive de ce système. Est-ce que ce serait une bonne idée pour vous, Fabrice Réchy, terminer avec ce système-là?
Oui, il n'y a pas que les fonctionnaires d'État qui sont...
C'est un système ceux des collectivités.
Oui, c'est un système de surrémunération pour les collectivités, les fameux 40%. Vous parlez des 40%.
Voilà.
Bon,
voilà.
Donc, plus 40%, c'est pas simplement les fonctionnaires d'État.
Et ça permet de soutenir la consommation locale, mais consommation de produits essentiellement
importés. C'est un système qui a été mis en place, je ne sais pas exactement la date, mais je pense que ça date de la départementalisation ou pas loin, pour inciter les fonctionnaires à aller dans les Outre-mer.
Alors, il y a un effet pervers. D'accord, et qu'on dit aujourd'hui, ce système-là, il faut arrêter.
Il y a un effet pervers, c'est que, effectivement, si vous voulez, alors, je ne veux pas rentrer dans le débat trop payé, pas assez payé, c'est pas ça le sujet, mais l'effet pervers, c'est par rapport au secteur privé. C'est ça le vrai sujet. C'est que du coup, je veux dire, ça augmente il faut que les salaires du secteur privé, pour être attractifs, doivent être au niveau des salaires du secteur public. Et donc, ça pénalise d'une certaine manière le secteur privé qui se trouve avec des niveaux de salaire, ou alors il y a un effet d'aspiration il est bien connu que dans les Outre-mer, beaucoup de gens veulent être fonctionnaires parce que les salaires sont supérieurs. Donc il y a un effet d'aspirateur qui n'est pas bon. Donc là, il y a un travail de fond à faire sur le moyen terme, parce que c'est un sujet extrêmement difficile à aborder politiquement, syndicalement et dans tous les sens du terme, mais il y a vraiment effectivement un travail à faire sur le long terme.
On est déjà à la fin de l'émission, désolé David Herbach-Chiffrin et Jean-Marc Mormec. Vous auriez sans doute eu des choses très intéressantes à dire sur ce sujet, mais voilà, parler des Outre-mer en 40 minutes, c'est un exploit qu'on a un peu réussi ce soir. Ça mériterait d'autres émissions, sans
avec
doute.
Plaisir,
merci.
Et quand vous voulez.
En tout cas, à tous les trois, merci également à vous, donc merci. Fabrice Réchy, d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grand Moudre. Vous pouvez la réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez également télécharger cette émission pendant un an. Les commentaires, c'est sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Isolte Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Élise Leu. Demain, le monde peut-il se passer du président des États-Unis? Ce sera notre question à partir de 18h20.